France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Peut-on vraiment réparer ses erreurs? C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine. Nous avons tous commis des erreurs au cours de notre vie à divers degrés, des mauvais choix, des maladresses, des comportements inadaptés, des phrases blessantes que nous avons immédiatement regrettées, mais le mal était fait. Alors une vie réussie rime-t-elle avec un parcours sans erreurs, sans faute? Nous verrons comment nos erreurs, nos échecs nous construisent, comment tirer des enseignements de nos erreurs passé, nous verrons si des excuses suffisent à réparer nos erreurs. Coup de projecteur également sur certains biais cognitifs qui nous induisent en erreur. Élément de réponse avec le journaliste Alexandre Lacroix, le philosophe Charles Pépin et la neuropsychologue Sylvie Chocron. Et vous, comment avez-vous réparé vos erreurs dans votre vie? Racontez-nous tout au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France en laissant messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Oh, je t'adore aussi, tu es si amusante. Il est surprenant qu'une fille aussi intelligente ait un frère aussi.
Ne me traite pas de débile.
Ah oh non.
Amène-toi. À nous deux. Je veux des excuses.
Plaît-il?
Des excuses.
D'accord, d'accord, ça va, je m'excuse.
T'es vraiment désolé?
Je suis vraiment désolé. Je vous fais mes excuses les plus sincères.
Tu retiens ce que t'as dit?
Je le jure. Je vous présente une complète et totale rétraction. Mes imputations étaient totalement sans fondement, ne constituaient pas une appréciation honnête et n'ont été dictées que par pure malice. Et je regrette profondément toute affliction que mes propos peuvent vous avoir causée à vous et à votre famille. Et je m'engage solennellement à ne pas répéter de telles diffamations sous quelque forme que ce soit.
Ça ira.
Extrait d'un poisson nommé Vanda avec John Cleese et Kevin Kline. Nous verrons en fin d'émission si les excuses suffisent à réparer nos erreurs. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine avec à la une « Peut-on réparer ses erreurs ?» Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Écrivain, philosophe, vous avez notamment publié chez Alary « Les vertus de l'échec » et « Vivre avec son passé », deux livres qui se répondent plutôt bien. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Annie.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche cherche au CNRS, de classe exceptionnelle. Hein, vous venez d'être nommée à ce titre-là.
Mon Dieu.
Vous êtes également chercheuse à l'Université de Paris et vous venez de publier aux presses de la Cité « Plongée dans votre cerveau ». Alors, selon le Robert historique de la langue française d'Alain Rey, « erreur » vient du latin « error »,« erroris », qui signifie à l'origine « action d'errer ça et là », et au sens figuré « incertitude »,« ignorance », »,« d'où méprise »,« illusion »,« faute ». C'est un mot dérivé de errare, au sens figuré de se tromper, et dans le petit Larousse illustré, c'est le fait de se tromper, la faute ainsi commise, l'état de quelqu'un qui se trompe, l'action inconsidérée, regrettable. Enfin, en droit, c'est l'appréciation inexacte, soit des qualités ou de l'existence d'un fait, soit de l'interprétation ou de l'existence d'une règle de droit. Alors, Alexandre Lacroix, est-ce que l'erreur, c'est une question qui a intéressé les philosophes depuis l'Antiquité ?
Oui, alors on voit bien qu'avec la définition, on peut appeler toutes sortes de choses une erreur. Et en fait, on peut, si on se trompe dans un exercice de mathématiques, on va faire une erreur. Si on fait une fausse note au piano, ça va être une erreur. Si... Bon, nous, on a décidé de restreindre un peu le champ immense de l'erreur, parce que l'erreur est tellement protéiforme dans nos existences qu'elle se multiplie sans cesse. On s'intéresse dans ce dossier vraiment aux erreurs morales. Aux erreurs morales, c'est-à-dire dans le domaine de des relations humaines, des liens que nous avons avec les autres, de notre inscription dans la société. Alors, les erreurs morales, c'est différent de la simple négligence ou de la simple distraction, de l'oubli. J'oublie de fermer la porte en sortant de chez moi, des cambrioleurs rentrent. C'est de la distraction, c'est de la négligence. C'est pas tout à fait une erreur. Mais l'erreur n'est pas non plus la même chose que la faute morale. La faute morale, dans la faute morale, il y a une intention de nuire, il y a une malveillance. C'est-à-dire, c'est un mensonge délibéré, c'est un vol délibéré, c'est un délit délibéré que je commets si je fais une faute morale. L'erreur, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un peu à mi-chemin entre la négligence et la faute. Peut-être que j'ai voulu bien faire, ou peut-être que j'ai mal calculé les conséquences de mon action, Et en fait, je me trouve entraîné bien trop loin. C'est le cas, je sais pas, moi, de celle ou de celui qui trompe son conjoint à soir, comme ça, c'est une bluette, il pense que ça n'aura pas de lendemain et qui met fin complètement à une histoire d'amour de 10 ou 20 ans. C'est le cas de...
Enfin, vous voyez, vous avez mal anticipé. Alexandre Lacroix.
Non, bien sûr. Mais vous voyez l'erreur, il y a cette idée que quelque chose nous a échappé entre l'intention et la réalisation.
Charles Pépin.
Oui, j'aime bien cette idée que l'erreur, ou même l'échec d'ailleurs, c'est qu'on avait un projet, donc une façon de s'inscrire dans le réel, qu'on avait anticipé, qu'on visualisait, et au moment de la réalisation, on se prend un mur, quoi. Au fond, le réel résiste. Et moi, c'est ça que je trouve, le plus intéressant. Cette leçon d'humilité, cette curiosité aussi, à l'égard de la résistance du réel. Si bien qu'on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est ça. Parce que quand les choses se passent comme prévu, au fond, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas vraiment de rencontre du réel. D'ailleurs, même d'un point de vue scientifique, tous les scientifiques disent que c'est quand on comprend pas, qu'on se demande comment ça marche. C'est quand le réel résiste, au fond, qu'on le questionne. Et c'est là qu'il peut y avoir une sagesse, au fond, enfantée de l'erreur ou de l'échec. Alors qu'il n'y a, en cas de succès, qu'une forme d'ivresse un peu bête et un peu suffisante.
Michel Pépin, pourquoi avons-nous tendance à assimiler l'erreur à la faute ?
Alors, j'ai bien aimé ce que vient de dire Alexandre Lacroix, qui est assez original, parce qu'en général, on dit soit il y a une erreur et c'est un peu mathématique, logique, soit c'est une faute et c'est morale. Ce que dit Alexandre est intéressant. C'est-à-dire, peut-être que l'erreur, sans être une faute morale, c'est quelque chose qui fait que on est pris dans un décalage par rapport à ce qu'on visait, et c'est là que s'ouvre un espace qui va être hyper intéressant pour rencontrer les autres, pour écouter des objections, pour s'interroger, pour se mettre à douter et finalement progresser, évidemment.
Sylvie Chocron, on le verra tout au long de cette émission, notre cerveau commet constamment des erreurs liées souvent à des biais cognitifs. Comme vous le rappelez dans votre livre « Plonger dans votre cerveau », notre attitude première serait de croire à un fait. Et puis dans un second temps, nous activons notre cortex préfrontal pour susciter notre jugement critique afin d'éviter les erreurs.
Exactement. Donc, en fait, il faut imaginer qu'on prend des milliards de décisions par jour. Enfin, c'est même pas comptable. Je dis des milliards, mais peut-être des milliards de milliards. Et donc, parmi ces décisions, il y a des décisions très rapides, inconscientes, qui nous permettent de nous adapter. On ne va pas réfléchir et décider consciemment où est-ce qu'on doit aller regarder, ce qu'on doit dire, etc. Et puis, il y a des décisions plus complexes, plus conscientes, qui prennent plus de temps. Et donc, on a besoin de ces deux systèmes, d'un système très rapide, automatique, et d'un système plus lent.
C'est le système 1 et le système 2 que rappelle très bien le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman dans l'un de ses livres.
Exactement. Donc, en gros, voilà, ce sont ces deux systèmes qui cohabitent en permanence. Et l'erreur, c'est finalement le résultat d'une inadéquation entre la perception de la situation, le programme d'action qu'on avait prévu, et puis le résultat. Alors, je ne dirais pas que l'erreur, c'est quand le réel nous résiste, parce que le réel, c'est nous, en fait. L'erreur, c'est aussi quand il se passe quelque chose en nous qui ne correspond pas à ce qui était prévu ou ce qui aurait dû être prévu. Et donc, notre cerveau, c'est un organe à prédire. Et donc, c'est très important pour lui de prendre en compte l'erreur. Et donc, du coup, on pourrait se dire, bah, finalement, quand on prend une décision, de deux choses l'une, soit on aboutit à ce qu'on avait prévu, c'est très bien, ça va renforcer l'expérience, on va stocker en mémoire qu'on a bien fait de prendre cette décision. Soit on a fait une erreur, et là c'est très important de s'y arrêter, de ne pas l'évacuer, parce que c'est la prise en compte de l'erreur qui nous permet ensuite d'ajuster comment on perçoit la situation et quelles réponses on doit y donner pour ne pas commettre à nouveau cette erreur. Donc l'analyse de l'erreur, elle est cruciale pour le cerveau parce que c'est ce qui va lui permettre de s'adapter au mieux.
Charles Pépin.
Alors Sylvie, je voudrais profiter de votre présence de neuroscientifique pour vous poser une question. Parce que j'avais lu quelque chose chez un neuroscientifique que j'avais pas bien compris mais qui me paraissait génial. Alors dites-moi, je parle sous votre contrôle, que le cerveau repère l'erreur juste avant qu'on la fasse, mais on n'a pas le temps de l'arrêter. Et du coup, c'est dans le moment où il a repéré l'erreur qu'on va quand même faire, qu'il est intelligent et créatif.
Exactement.
Ce qui voudrait dire que plus on fait d'erreurs, plus on est intelligent et créatif.
Ah mais tout à fait, et d'ailleurs l'erreur c'est le moteur de l'apprentissage. Et donc du coup on parle de plus en plus de métacognition.
C'est la,
connaissance, c'est ce que j'allais dire, c'est la connaissance de nos connaissances, c'est la connaissance de notre savoir. Et si on devait définir aujourd'hui la bêtise, bah, la bêtise ce serait la méconnaissance de notre méconnaissance. C'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc on croit tout savoir.
On ne sait même pas qu'on se trompe.
Exactement, et donc on ne sait pas qu'on se trompe, on ne sait pas qu'on a fait des erreurs. Alors que l'intelligence, c'est le fait de savoir ce qu'on sait, mais aussi, surtout, de savoir ce qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, de savoir là où on s'est trompé, de connaître ses erreurs, et de savoir vers où on doit aller pour s'améliorer.
Sylvie Chocron, le problème avec notre cerveau, c'est que bien souvent, il est partisan du moindre effort, surtout en cas de fatigue mentale, et c'est évidemment la porte ouverte aux erreurs en tout genre.
Bien sûr, et donc quand vous êtes stressé, ou quand vous êtes pressé, qu'on vous contraint, qu'il faut faire les choses très vite, vous n'avez plus le temps de percevoir l'ensemble d'une situation, de l'analyser, de choisir les meilleurs outils pour y répondre, de mettre en place la bonne réponse et d'agir. Et donc du coup, bah, sous l'effet du stress ou de la pression, vous allez prendre une autoroute au lieu de prendre un petit chemin de campagne qui vous permet de tout envisager. Et cette autoroute, c'est ce qu'on appelle le préjugé ou le biais cognitif. C'est une espèce d'automatisme que vous allez mettre en place. Vous allez, hop, donner la première réponse qui vous arrive en fonction de ce que vous avez lu ou entendu ou appris, parfois même inconsciemment. Et c'est exactement le problème du biais cognitif. C'est-à-dire que vous allez répondre, vous allez penser que dans telle situation, c'est telle réponse qui s'impose sans même réfléchir.
Alexandre Lacroix.
Je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un enjeu, et je pense que chacun doit faire un choix entre le perfectionnisme et la perfectibilité. Alors j'explique, le perfectionnisme, c'est le rêve, selon moi, assez vain, assez creux, de vouloir vivre sans erreur ou d'éliminer progressivement les erreurs de son existence, d'apprendre des erreurs précédentes de telle manière qu'ils ne s'en produisent plus. On voit bien que dans notre société, on est souvent évalué. C'est un peu une société où on nous met toujours 2, 3, 4 ou 5 étoiles dans tous les domaines de l'action professionnelle et même parfois de la vie privée. On a une tendance où on a une pression au perfectionnisme et à vouloir évacuer toute forme d'erreur, à vouloir vivre une vie avec zéro défaut. C'est vraiment un idéal dangereux. Là où ce qui est décrit à la fois par Charles et par Sylvie, c'est une attitude extrêmement active vis-à-vis de nos erreurs, qui consiste à être dans un état de vigilance, mais aussi d'interrogation sur les erreurs qu'on commet. Et donc là, j'appellerais plutôt ça de la perfectibilité. C'est-à-dire, j'ai un horizon indéfini de progression, je ne cherche pas à être parfait, mais je fais de chaque erreur l'opportunité d'un petit pas en avant pour moi-même. Voilà, ça me paraît intéressant, sans jamais viser la perfection qui serait une espèce d'horizon final. assez problématique en réalité.
Charles Pépin.
Oui, deux remarques sur ce que vient de dire Alexandre Lacroix. Un rappel rousseauiste, pour Rousseau, le propre de l'homme, c'est la perfectibilité, justement. Surtout pas la perfection. Et deuxième point, n'oublions pas que dans le DSM, donc l'annuaire des psychothérapeutes des maladies mentales, le perfectionnisme est quasiment une maladie. Alors, c'est pas une maladie elle-même, mais c'est un symptôme de plein de pathologies. Donc voilà, c'est pas une mince affaire. Le perfectionniste va dans le mur, il repousse le moment de tenter, il attend d'être parfaitement prêt pour y aller, et c'est pourquoi il n'y va jamais, ce qui ne fait que faire monter l'angoisse.
Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur l'erreur. Comme on l'a dit, l'erreur, ça permet de se perfectionner, mais l'erreur, ça permet aussi de se découvrir sous un nouveau jour. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui n'était pas ce qui était prévu ou qui n'était pas la meilleure option, on découvre qu'on est capable de faire ça, donc on en apprend plus sur soi, mais aussi on découvre la réaction des gens face à notre erreur. Et ça, c'est aussi très instructif. Donc, c'est aussi un moyen de faire des expériences qu'on ne ferait pas sans l'erreur.
Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, quel est le menu de vos questions toujours pertinentes ?
Y a-t-il une dimension culturelle à l'échec et notre cerveau est-il apte à traiter tous les types d'erreurs ?
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Sosie officielle du colonel Michel Goya avec votre nouvelle coupe militaire, vous savez, ce consultant militaire sur les chaînes info. Vous êtes vraiment son sosie. Quel objet avez-vous choisi cette semaine pour votre petite mythologie ?
Eh bien écoutez, ça va voler beaucoup moins haut que les interventions qu'on a eues ce matin. Étant très très peu philosophe, je m'en suis tenu à la boîte à outils et ce qu'il y a dedans pour toute réparation.
Ali Rebbi.
On en fait tous des erreurs.
Grand bien vous fasse.
L'important c'est de s'en rendre compte et de réparer.
J'y suis réparable.
Sur France Inter.
Peut-on vraiment réparer ses erreurs? C'est notre thème ce matin avec la complicité du mensuel Philosophie Magazine, en compagnie de son directeur de la rédaction Alexandre Lacroix, avec l'écrivain et philosophe Charles Pépin, et avec la neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS de classe exceptionnelle, Sylvie Chocron. Alors Charles Pépin, nous vivons nos erreurs comme des échecs. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture où l'erreur, l'échec, la maladresse, l'indécision ne sont pas valorisés.
Alors déjà, avant de s'intéresser à la différence culturelle, peut-être il y a une question qui est dure, c'est quand est-ce que c'est un échec et pas une erreur. Moi, ma proposition dans mon livre, mais elle est très discutable, je suis pas chercheur, c'est juste une idée comme ça, c'est qu'il y a échec quand il y a un sentiment d'échec. Quand l'erreur, qui peut être objective, qu'on peut ne pas mal vivre, se double d'un sentiment d'échec. Et je trouve que c'est très important d'accueillir ce sentiment de l'échec, contrairement à ce qu'on pourrait nous dire, à savoir c'est pas grave, va de l'avant, parce que le sentiment de l'échec indique, et c'est ce que disait aussi Sylvie tout à l'heure, ce qui est important pour moi. Si par exemple je divorce et que je le vis hyper mal, et que tout le monde me dit mais c'est pas grave, il y a 60% de divorce, en fait je me coupe d'un affect qui est important pour que je construise ma vie dans l'avenir. Si j'avais une idée de l'amour comme devant durer toute la vie et comme devant se réinventer toute la vie, eh ben je dois endurer, traverser ce sentiment de l'échec, ne surtout pas positiver en m'empressant de rebondir, parce qu'il me dit quelque chose d'important pour moi. Donc ça, c'est une précision importante. Ensuite, évidemment, il y a un relativisme culturel. Il y a des pays, il y a bien pire que la France, mais en effet, en France, pour des raisons liées beaucoup, beaucoup à ce que fut l'école de la Troisième République, une école très normative, on a été habitué à voir l'erreur comme un manquement dramatique par rapport à une norme, qui était une norme de l'égalité républicaine, et non pas comme la promesse d'un talent singulier, comme dans certains pays anglo-saxons ou en Europe du Nord, où là, on va s'intéresser à ce qu'il y a de prometteur dans le ratage. Et moi, c'est ce que j'ai souvent dit à mes élèves quand j'étais encore devant des élèves de lycée. Je leur disais, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ratages intéressants. En revanche, il y a des ratages nuls. Il ne faut pas oublier de dire que toutes les erreurs ne sont pas intéressantes. Celui qui rate par paresse, par conformisme, parce qu'il répète ce qu'il a vu sur les réseaux, ce n'est pas intéressant. Et donc, plus on valorise le ratage prometteur, plus il faut être aussi sévère avec le ratage inintéressant.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Alexandre Lacroix, je rebondis à l'instant sur ce que vient de dire Charles Pépin. Effectivement, je pensais aux États-Unis, il y a une quinzaine d'années, sont apparus ce qu'on appelait les fail-cons, les conférences sur l'échec. Alors, c'était des entrepreneurs qui venaient raconter devant un parterre de jeunes entrepreneurs eux-mêmes, absolument inspirés, motivés, passionnés, ce que ces personnes avaient raté, et comme vient de le dire Charles Pépin, ce que ça leur avait appris, comment ça leur avait permis de développer leur créativité, de mieux rebondir. Et effectivement, il l'a rappelé également, en France, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que cette notion d'erreur, de prise en considération d'une forme de risque aussi, est-ce qu'on peut dire en entreprise en France qu'on a évolué sur ce point-là ou pas du tout? On a peur de faire des erreurs en entreprise.
Oui, alors cette mode américaine, j'aurais tendance à m'en méfier un peu. Le fondateur de LinkedIn a écrit il y a une douzaine d'années un livre qui s'appelle The Startup of You, l'entreprise que vous êtes. Et parmi les conseils de vie qu'il donne, il donne évidemment le conseil d'avoir une belle vitrine, c'est-à-dire un profil LinkedIn magnifique ou un profil Instagram extraordinaire, mais aussi de se lier avec des partenaires futurs, mais aussi d'être résilient en cas d'échec, un peu comme une entreprise qui a eu fait un mauvais bilan une année et qui doit redéployer ses produits, redéployer sa stratégie commerciale. Là, ça me semble être quand même une forme de déviance, et je voudrais quand même pointer une différence entre l'échec et l'erreur importante. À mon avis, dans l'échec... On vise un résultat. C'est pour ça que d'ailleurs que la notion traverse à la fois le monde professionnel et le monde privé de manière assez claire. On vise un certain résultat et on n'a pas atteint ce résultat. On n'a pas atteint le cœur de la cible. On est sur le bord. On est hors de la cible. Ça, c'est l'échec. Et je vois bien cette mentalité entrepreneuriale nous dire qu'il faut, en quelque sorte, rebondir sur l'échec, être résilient par rapport à l'échec. Bon, l'erreur, moi, j'en ferai une affaire aussi beaucoup plus. il s'agit moins d'atteindre un résultat. Il s'agit de corriger ou de saisir en permanence les décalages qu'il y a entre moi, les autres, mon environnement, le monde, la société. Vous voyez, c'est plein de petits ajustements. Il ne s'agit pas de dérouler un plan de carrière. Il s'agit plutôt d'essayer d'y voir plus clair dans sa façon de s'orienter dans le monde.
Point de divergence peut-être, Charles Pépin ?
Oui, autre point de divergence par rapport à cette mentalité américaine, c'est qu'il y en a marre d'avoir des gens qui disent qu'ils valorisent leurs échecs une fois qu'ils ont réussi. C'est ça le biais. Il y a une illusion rétroactive. D'abord, ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi parce qu'ils ont échoué avant. déjà, et ensuite, il y a évidemment des échecs qui ne sont pas fructueux, qui ne sont pas profitables, mais qui sont beaux quand même. Même quand on n'en fait rien, la vie, c'est aussi de savoir rater, d'être imparfait et de pas nécessairement tirer comme un glouton utilitariste de chaque ratage un apprentissage. Et parfois, comme le disait aussi très bien Sylvie, ben on est beau dans ces moments-là, et puis des gens vont venir vers nous, ils vont avoir le cœur ouvert, ils vont avoir de l'empathie, et ben c'est ça qu'on aura gagné, surtout on n'aura pas réussi pour autant, au sens où on n'aura pas fait fructifier son ratage. Et ça, c'est important. Et moi, quand j'ai écrit mon livre, Les Vertus de l'échec, j'ai été un peu attaqué, comme si j'allais du côté de cette idéologie libérale américaine. En fait, pas du tout. Si on lit le livre en détail, il y a des chapitres entiers où j'explique que le ratage est beau, même lorsqu'il ne produit pas un succès.
Mais vous êtes d'accord avec Alexandre Lacroix sur la distinction entre échec et erreur ?
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que dans l'erreur, je vais pouvoir analyser plutôt pourquoi je suis en décalage par rapport à un environnement. Et ça, c'est quand même une forme de sagesse. Et dans l'échec, parfois, il n'y a pas ça. Il y a juste que c'est dur, je ne comprends pas, ça résiste. Mais quelque part, être humain, c'est aussi ça. Et on va entrer en lien avec les autres, souvent dans ces moments-là.
Sylvie Chocron.
Oui, je voulais revenir sur cette distinction erreur-échec. Je pense que l'échec, c'est cette sensation qu'on a quand on avait un objectif précis et que cet objectif précis qu'on avait consciemment n'est pas atteint. Et quand, du coup, on va analyser ça comme un échec, c'est qu'on fait abstraction de tout ce qui nous a permis d'arriver là, de toutes les opérations mentales qu'on a mises en place, qui avaient, elles, du sens. Et donc l'échec ne renvoie finalement qu'au but ultime, qui n'est pas atteint et qui est sans doute irrémédiable. Alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la notion d'erreur, il y a cette notion de recoller les morceaux, de faire avec, de survivre une erreur, finalement. Alors que l'échec, c'est finalement s'être concentré uniquement sur l'arrivée, en faisant abstraction de tout le chemin avant.
Ben oui, d'ailleurs, Sylvie, ça veut dire aussi qu'il y a une pensée trop binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux cases, échec et succès. Et donc, si je ne suis pas dans le succès, je suis dans l'échec. Mais ça veut dire que si on sort de la pensée binaire ou dichotomique, on va s'apercevoir, c'est ce que vous disiez avec d'autres mots, que finalement, ok, je n'ai pas atteint le but, mais j'ai rencontré, j'ai appris, j'ai progressé. Et finalement, ben, je crois qu'il faut peut-être jeter le mot aussi. C'est une proposition. Peut-être que ce mot ne va pas. D'ailleurs, je vous rappelle que dans l'étymologie, il y a la notion de mort. Hein, le roi est mort en persan, en arabe, shamat, shekmat. C'est comme si le roi en moi était mort au moment de l'échec. Peut-être qu'il faudrait jeter cette résonance-là. Et moi, je propose de revenir au vieux français échec du XIe siècle, qui veut dire le butin. Le butin, voilà. L'échec, c'est, il y a quelque chose de difficile et puis on en tire quelque chose.
Et d'ailleurs, vous le rappelez dans votre livre, l'une des belles vertus de l'échec, c'est de favoriser les bifurcations existentielles. Vous prenez l'exemple de Charles Darwin, hein, qui abandonne ses études de médecine et de théologie avant d'embarquer un jour sur le Beagle, ce qui changea, il faut bien l'avouer, une partie de la face du monde.
Et ça, il faut vraiment insister, parce que je crois, mais je pars sous le contrôle des neurosciences, que la plus grande des vertus de l'échec n'est pas de nous faire apprendre quelque chose qui va nous faire réussir dans la voie dans laquelle on a commencé par échouer, mais de nous faire changer de voie, bifurquer, aller voir ailleurs. Ok, je me prends une porte, je prends un autre chemin. Je me prends une fenêtre, je prends un autre chemin. Ce que dit Sartre, toujours aussi provocateur, plus tu échoues, plus tu existes. C'est-à-dire plus tu vas envisager un autre, explorer un autre chemin d'existence.
Alexandre Lacroix.
Bah oui, alors pour revenir à l'erreur, maintenant qu'on a bien défini l'échec, je pense qu'il faut donner quelques exemples. Que seraient des erreurs ? Je dirais qu'il y a un premier type d'erreur où on n'a pas anticipé les conséquences. C'est souvent ce que disent les enfants. Tu me souviens ce que tu m'as dit tel jour ? On a complètement oublié qu'on leur avait dit ça. C'est la mère qui fait une remarque à sa fille sur l'éducation de ses enfants, qui va créer une brouille de plusieurs années, alors qu'elle l'a dit sans y penser, dans un moment de fatigue peut-être. Il y a un autre type d'erreur qui est intéressant, qui relève de ce que les Grecs appelaient l'akrasis, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté. Je vois le bien, et si je suis addict au jeu ou à l'alcool, ça va m'arriver assez souvent, je vois ce que je dois faire, c'est-à-dire ne pas entrer dans un casino, ne pas entrer dans un bar, c'est très clair pour moi. Et j'ai promis à mon entourage que je n'allais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Il y a quelque chose qui s'est dérobé sous ma volonté, et là, je dirais que c'est un autre type d'erreur.
Et puis l'erreur morale peut au contraire être le fruit de la réflexion. J'ai un choix à faire, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai consulté d'éminents avis, et pourtant
Oui, c'est j'ai pris une décision qui s'avère désastreuse.
C'est l'erreur technocratique. Ça, j'aime beaucoup. C'est l'erreur du polytechnicien à la tête d'une grande entreprise. C'est celui qui a une capacité de calcul et d'analyse extrêmement aiguë, mais qui peut-être va être complètement piégé par cette capacité de calcul et d'analyse, le réel n'étant pas forcément si mathématique qu'on le croit, et l'économie n'obéissant pas à des lois fixes. Voilà, donc il y a plusieurs types d'erreurs. Je dirais aussi que parfois l'erreur, c'est tout simplement de se remettre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire j'ai fait confiance, on parlait de la confiance, je fais confiance à un médecin qui me donne un avis médical, je ne prends pas un deuxième avis, j'aurais dû le faire. C'était une erreur que de lui faire confiance. Mmh. Et là, je dirais que c'est un dernier type, c'est tiens, j'ai adopter une opinion qu'on m'a donnée, un avis qu'on m'a donné sans l'examiner moi-même. C'est un peu de paresse intellectuelle, ça va plus vite de faire comme ça, mais c'était une erreur et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc on voit que le champ de l'erreur, comme celui de l'échec d'ailleurs, donc on a bien détaillé, le champ de l'erreur est assez ouvert et assez vaste, ce qui fait qu'avec toutes ces formes d'erreurs, nul ne peut se déclarer complètement indemne.
Sylvie Chocron, notre cerveau nous induit bien souvent en erreur. J'aimerais qu'on parle des biais cognitifs. Rappelez-nous ce que sont les biais cognitifs. Selon l'INSERM, il s'agit d'une distorsion dans le raisonnement et dans le traitement de l'information. En d'autres mots, c'est quoi exactement un biais cognitif pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien ce que c'est ?
Alors, on va commencer par ce que ce n'est pas, justement. Donc, quand vous n'êtes pas victime d'un biais cognitif, quand vous devez prendre une décision ou juger quelque chose, vous devez percevoir, analyser ce que vous avez perçu, comparer ça avec ce que vous avez en mémoire, avoir une forme de jugement critique et puis décider de ce que vous allez donner comme suite à cette information. Ça, c'est ce qui se passe quand vous raisonnez véritablement. Mais la plupart du temps, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va court-circuiter tout ce chemin, on va percevoir quelque chose et on va lui associer d'emblée une décision, un jugement, un avis, une façon de répondre. Et c'est donc ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire que notre cognition est biaisée. Au lieu de vraiment tout analyser et tout percevoir très finement, on est biaisé par des choses souvent qu'on a apprises, mais attention, qu'on n'a pas apprises forcément consciemment. D'accord, qu'on a appris de manière totalement inconsciente. Donc on a appris, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre, on a appris à faire confiance à son médecin ou à son coiffeur. Et donc du coup, on peut définir un biais de surconfiance, c'est-à-dire qu'on a tellement confiance qu'on ne va pas analyser la situation, c'est-à-dire qu'on entend bien les bruits du ciseau dans nos cheveux, mais on se dit non, mais je vais lui faire confiance, c'est mon coiffeur, il a l'habitude. Et puis pour une raison ou une autre, finalement, on ne va pas être assez vigilant. Et par excès de confiance, on va se retrouver avec la coupe de cheveux qu'on voulait pas. Ça, c'est plutôt drôle, c'est le coiffeur, c'est pas grave. Mais ça peut se produire dans d'autres domaines. On peut avoir un biais de surconfiance vis-à-vis d'un enseignant qui, finalement, nous renvoie que l'erreur qu'on a faite n'est pas une erreur, mais un échec, et qui, du coup, va nous mettre dans une certaine position et à qui on va faire confiance parce que c'est l'autorité. Et donc, ces biais...
Alors, il y a 250 biais cognitifs qui ont été référencés.
Alors là, le référencement, il y a un peu d'exagération parce que finalement, on a mis dans biais cognitif tout ce que les psychanalystes ou les psychologues cliniciens auraient mis dans une forme de pensée non consciente. Et donc finalement, on a assimilé la pensée non consciente à des biais cognitifs qui finalement détermineraient nos réactions à notre insu. Donc on exagère un peu. Mais dans le cas qui nous concerne, on pourrait parler par exemple...
Et quels sont les biais cognitifs les plus fréquents, ceux qui nous induisent quasi systématiquement en erreur ?
Clairement, il y a le biais de confirmation.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que vous avez des croyances sur un sujet. Et finalement, tout ce que vous allez percevoir, vous allez l'interpréter comme quelque chose qui vient confirmer votre croyance. Et donc, du coup, vous négligez complètement les autres informations qui viendraient à l'encontre de votre croyance. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre
par
comme
exemple,
croyance.
Sur les vaccins, par exemple, vous allez sur un moteur de recherche.
Imaginons que je sois anti-vax. Voilà. Je suis anti-vax, donc je vais essayer de me convaincre que j'ai raison. Et donc, du coup, je vais aller sur Internet, je vais aller sur des forums, et je ne vais mémoriser, je ne vais faire attention qu'à ces histoires qui racontent que des enfants ont développé un autisme après avoir été vaccinés par tel vaccin, ou tel adulte a développé une sclérose en plaques après tel vaccin. Et finalement, je vais être victime de ce biais de confirmation. Je ne vais enrichir ma pensée qu'avec des pensées du même type. Et je vais complètement négliger les milliers de cas où il ne s'est rien passé. Ça, c'est le biais de confirmation. Il y a un autre biais qui est assez finalement risqué dans le domaine de la prise de décision, c'est le biais de conformité. Imaginons que mes enseignants considèrent que je suis vraiment nulle, irrécupérable. On fera rien de moi. Oui. Bah, finalement, je vais me conformer à ce qu'on attend de moi. Et donc, je ne vais pas me dépasser. Je ne vais pas réussir dans ce que je vais entreprendre parce que je me conforme à l'image que les gens ont de moi. Et donc, ça va inhiber mes capacités. Et donc, je ne pourrai pas surmonter ça.
Moi, je me suis conformé au nul en maths que j'étais dès la sixième et ça a duré jusqu'à la terminale.
Voilà. Et les femmes vont se conformer à un certain un nombre comme ça d'attentes vis-à-vis d'elle.
C'est quoi le biais d'autocomplaisance ?
Ah, le biais d'autocomplaisance...
Qui nous induit en erreur, souvent.
Bah, écoutez, c'est le fait d'être beaucoup plus complaisant avec nous-mêmes qu'avec les autres ou avec les gens qu'on aime. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, nous, c'est pas de notre faute. C'est vraiment parce qu'il y a eu plein de causes autour de nous qui ont fait qu'on a mal agi. Par contre, le type devant moi, qui m'a fait une queue de poisson, il voulait me faire du mal. Vraiment, c'était sa décision à lui. C'est pas parce qu'il était pressé pour aller chercher ses enfants à l'école. Et donc, du coup, on est complaisant vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des gens qu'on aime bien.
Et le biais de pensée polarisée ?
Alors, le biais de pensée polarisée, c'est le fait, comme le disait Charles tout à l'heure, qu'on raisonne en tout ou rien, en blanc ou noir. Et donc, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, du coup, on va prendre cette décision-là, qui est à l'inverse d'une autre décision, mais on ne va pas se poser de questions entre vraiment le blanc et le noir. Donc, on a plein de biais comme ça, qui, toute la journée, vont venir finalement court-circuiter notre analyse, notre jugement critique. Et pour en sortir, il faut être capable de reprendre tout le chemin, de se demander pourquoi on a pris cette décision et d'essayer de vérifier qu'on n'a pas été victime d'un biais.
Alexandre Lacroix.
Oui, moi j'aurais une question pour Sylvie, à mon tour. S'il y a 250 biais cognitifs référencés, est-ce que le fait de voir des biais partout est un biais des chercheurs en neurosciences ?
Bah, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je pense. Je pense qu'on voilà, on a interprété comme des biais tout ce qu'on n'arrivait pas à contrôler consciemment.
Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, Sylvie Chocron, toujours, hein, c'est votre moment là. Ok, on a compris, les erreurs, certaines sont simples, faciles à traiter, à identifier, ok. En revanche, sur le plan... émotionnel, relationnel. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense notamment à ce qu'on appelle les erreurs de casting.
Vous avez raison.
Votre amie Béatrice prend toujours des tocards et nous, on le voit, ouais. On le sait,
c'est vrai.
Mais elle reprend un tocard.
Exactement.
Donc, pourquoi l'erreur de casting ne peut pas être traitée ? Est-ce qu'il y a un biais ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Béatrice à tomber sur les biens ?
Ce que vous appelez l'erreur de casting, c'est ce que les psychologues cliniciens appellent la répétition. C'est-à-dire que les gens vont répéter...
Les répétitions de scénarios de vie.
Exactement. Ils vont répéter des situations qui, pourtant, sont délétères pour eux-mêmes, ne vont pas leur apporter ni le bien-être relationnel, ni quoi que ce soit, mais pour autant, ils vont répéter. Pourquoi est-ce qu'il y a une répétition ? Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de prise de conscience, d'abord, du fait qu'on a choisi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça ? Il n'y a pas d'analyse, justement, de ce qu'on pourrait appeler l'erreur de casting ou l'échec d'une relation, peu importe sur quel plan on se place. Et donc, du coup, pour sortir de cette répétition, pour sortir de cette erreur de casting, encore faut-il percevoir le décalage entre ce qu'on attendait et ce qu'on a obtenu. Et pour ça, il faut être parfaitement honnête dans l'analyse qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut être honnête avec nos souhaits, ce qu'on attendait de la relation, et honnête avec ce qu'on a eu. Et donc, il faut percevoir et analyser la situation à tout point de vue.
Charles Pépin.
Je crois qu'il faudrait aussi se demander exactement ce que c'est qu'un tocard. Non, mais plus sérieusement, c'est
vous pourriez faire une philosophie du tocard, Charles Pépin.
Je vous remercie, bonne idée. Non, plus sérieusement, la répétition, c'est le problème. C'est-à-dire que... Mais je crois qu'il faudrait distinguer une répétition qui est vraiment une répétition à l'identique. Hein, l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. C'est la suite du proverbe.
Errare humanum est perseverare diabolicum.
Et ce qui est vraiment diabolique, c'est quand il n'y a pas de progression du tout. Mais parfois, parce que j'ai un biais de pensée polarisé, je crois que je suis dans une répétition à l'identique, alors que j'ai progressé. Par exemple, je me suis débarrassé de ce troisième tocard en 3 mois, et celui d'avant, j'ai mis 3 ans à m'en débarrasser. Donc en fait, on peut progresser dans l'erreur. C'est ce que dit très bien Beckett, et qui nous aide à sortir de cette idée, qui est « tu as échoué, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux ». Et peut-être, comme vous le disiez aussi, il faudrait faire un vrai effort d'attention pour se demander si c'est vraiment une répétition à l'identique. Et ensuite, il y aura 2 cas de figure pour être clair. Si c'est le cas, bah, je dois consulter. évidemment, c'est l'objet de la thérapie, psychanalyse ou autre d'ailleurs, de sortir de la répétition. Et puis, si je m'aperçois avec un effort d'attention qu'en fait j'avais une pensée trop binaire, une pensée trop polarisée, qu'en fait j'ai répété mais en progressant, au fond ça va, je vais finir par m'en sortir.
Voilà un homme qui ne sait pas tirer profit de ses erreurs capillaires, Éric Libio et sa petite mythologie d'un objet du quotidien.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Alors je vous entends hein, ce matin, je vous ai lu dans Philosophie Magazine, cité Camus, Arendt ou Montaigne, qui s'y sont tous collés pour réfléchir à la façon dont on peut réparer ses erreurs en travaillant sur soi ou en modifiant sa relation aux autres. Mais permettez, vu mon peu d'engagement philosophique, que je m'en tienne au bricolage pour toute réparation. Alors ce n'est pas que je sois un expert en bricolage non plus, mais davantage qu'en philosophie, ça c'est sûr. La philo m'a donné trop de fils de fer à retordre pour que je lui préfère le tournevis qui a aussi ses vertus. Cela dit, je ne suis pas à ce point bricoleur pour utiliser le kintsugi, technique de réparation japonaise, alors qui valorise l'objet ainsi réparé. Ce qui me pousse à poser la question, sans forcément y répondre, si le kintsugi était un concept philosophique, y a-t-il des fautes adorées qui soient préférées à d'autres ? Vous avez 10 minutes avant la fin de l'émission. Pour frimer et jouer à Monsieur Bricoleur, j'aurais pu vous parler de l'alésoir, de la doloire, de la gradine, de la pointe rôle, du tarot ou du vastringue, mais je ne suis pas à ce point expert en bricolage et je ne sais même pas à quoi servent ces outils. Je sais juste qu'ils existent et ça suffit à mon bonheur parce que ces mots-là invite déjà au voyage, c'est un peu comme les concepts philosophiques finalement. Je sais qu'ils existent et parfois ils me ravissent sans savoir à quoi ils servent. Je vais donc m'en tenir à ma boîte à outils personnelle qui ne contient que le basique comme celle de la plupart des gens, hein, marteau, tournevis, pince, clou, vis, scie, boulon, etc. Des objets plus ou moins familiers qui servent à fabriquer, à casser et à réparer. Et c'est peut-être là que l'analogie bricolo-philosophique fonctionne. Alors attention, je ne dis pas que la philosophie c'est du bricolage, quoique Alexandre Lacroix, je note qu'en novembre 2023, vous avez sorti un hors-série s'initier à la philosophie dans lequel il était question de marteau pour casser des préjugés et de pince pour serrer un concept. Comme diraient les Oulipiens, vous m'avez plagié par anticipation, c'est une faute, mais je ne vous en veux pas. D'ailleurs, si le marteau casse les préjugés, il brise aussi les vitres. Pourtant, il faut le dire et le redire, il enfonce aussi le clou qui maintient deux pièces de bois ensemble. Le tournevis, lui, visse ou dévisse, joint ou déjoint, sépare ou rapproche selon le sens des aiguilles. La pince est le menu complet, elle serre, elle resserre et desserre. La scie est évidemment fidèle, elle tranche parce qu'à la fin il faut bien décider, la douille elle a du culot et donne de l'assurance, le papier de verre affine jusqu'à plus soif et le niveau à bulles se coince quand il ne travaille pas. À croire que tous ces objets et ces outils inanimés ont bel et bien une âme ou racontent autre chose que leur simple fonction. Mais je me garderai bien d'expliquer à quiconque ce qu'il faut faire pour réparer ses fautes ou ses erreurs, à chacun d'utiliser la clé qui fonctionne, clé à molette, clé tricoise, clé plate, clé à chaîne, clé à cliquer, et j'en passe. Il y a le choix, c'est la leçon de la boîte à outils.
Vous preniez des notes, Alexandre Lacroix ?
Oui, j'étais en train de réfléchir à cette idée de la philosophie à coups de marteau. La philosophie à coups de marteau, c'est le sous-titre d'un livre de Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Et moi, adolescent, je pensais que c'était même pas un marteau, mais une masse, quoi. Que c'était comme pour détruire un mur et qu'on allait s'en donner à cœur joie. Et puis, un commentateur que j'ai lu récemment a consacré tout un développement au fait qu'il parlait, Nietzsche, du marteau de l'ajusteur de piano. Vous savez, celui, le petit outil délicat qui permet de tapoter sur les cordes pour voir si le son est fin et s'il est parfait. Alors voilà, j'avais tout faux dans ma première lecture.
Ah, Éric... Je ne peux pas laisser dire ça.
Il y a autre chose, c'est chez Nietzsche, c'est le marteau du gastro-entérologue. Parce que, comme on peut le faire avec la main, c'est pour entendre derrière les concepts, les entrailles, les intestins. Et c'est ça aussi la métaphore du marteau nietzschéen, mais on s'est aussi trompé encore une fois. C'est aussi savoir ce qui palpite dans le ventre, au fond, et qui fait qu'on croit en tel idéal ou pas.
Vous avez vu, vous êtes un peu philosophe, Éric.
Bah, je ne savais pas que Nietzsche m'avait plagié également.
Éric Libio, par ailleurs, rédacteur en chef d'Écran Total. Vos chroniques sont à podcaster sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Peut-on vraiment réparer ses erreurs? C'est notre thème ce matin, avec la complicité du mensuel Philosophie Magazine, avec Alexandre Lacroix, Charles Pépin et Sylvie Chocron. Et nous accueillons Matteo Scognamiglio, bonjour.
Bonjour Annie.
Vous collaborez à Grand Bien Vous Fasse, vous êtes également critique dans la revue Esprit. Alors la littérature peut nous aider à surmonter nos erreurs, exemple avec un grand roman italien contemporain.
Effectivement, Adi, aujourd'hui nous partons du côté de l'Italie. Je ne vous parlerai pas, non, de Jean Valjean, ni même d'Expiation de Ian McEwan, où la protagoniste tente de réparer par l'écriture une faute irrémédiable. Je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de dépasser des fautes strictement individuelles et de voir que la littérature peut aussi corriger d'autres formes d'erreurs, celles qui sont liées par exemple aux déterminismes sociaux, à un pays ou même à une époque. Et c'est ce que l'on retrouve exactement dans L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. On y suit Modesta, qui est une jeune Sicilienne née dans la misère au début du XXe siècle et qui conquiert sa liberté à travers le désir, le savoir et la transgression. Transgression à la fois des normes sociales mais aussi des normes religieuses et patriarcales. Et cela tout au long du Novecento italien. Modesta ne cherche pas à réparer une erreur individuelle, elle cherche à surmonter une erreur sociale, un déterminisme qui semblait la condamner. Elle cherche à corriger le destin qu'on voulait lui imposer. Et au fond, bah pour elle, la transgression devient une autre forme de réparation. La possibilité de réparer une existence cabossée, une existence mal commencée, pour en faire quelque chose d'autre, pour la transcender. Et en un sens, elle répare des erreurs du déterminisme et des erreurs du patriarcat. Et même après un mariage arrangé, elle continue de transgresser des règles, elle continue de défier ce que son nouveau destin voudrait lui dicter. Elle transgresse pour ne pas commettre l'erreur de se trahir elle-même. Alors oui, bon, on a parlé d'erreur, de déterminisme, mais L'Art de la joie, c'est bien plus que ça. Ça reste un roman, et un roman fou, un roman incandescent, un roman d'une liberté folle qui s'affranchit de tous les cadres narratifs habituels. Goliarda Sapienza parvient à inventer une langue sensuelle, une langue provocante qui est traversée par le désir, par la pensée. C'est un roman où on pense, et aussi par l'instinct de vie. Dans ce roman, tout est transgression. On transgresse les genres littéraires, on transgresse les normes sociales, les rôles sociaux aussi. Modesta ne se contente pas de vivre, elle se réécrit sans cesse et elle échappe à toute assignation. C'est un roman qui ose et qui nous rappelle que la littérature peut être un espace radical d'émancipation et de liberté. Mais en y réfléchissant, il y a bien une erreur en fait, une erreur intrinsèque à L'Art de la joie, et c'est une erreur qui est éditoriale. Trop transgressive, trop en avance sur son temps sans doute, L'Art de la joie est refusé par toutes ces maisons d'édition, et ce malgré l'intervention du président italien Pertini. Ce chef-d'œuvre ne paraîtra qu'après la mort de Goliarda Sapienza, et en France. Preuve finalement que la littérature finit parfois par rendre justice et à réparer des erreurs. Mais au-delà de sa dimension réparatrice, la littérature nous donne aussi un espace pour rejouer, repenser et retraverser nos erreurs. Et bien sûr, elle a cette force inouïe, celle de nous permettre de mieux habiter le présent.
Merci beaucoup Matteo Scognamiglio. Vous nous avez donné de lire L'Art de la joie de Goliarda Sapienza aux éditions Viviane Amis. C'était publié en 2005 et c'est traduit par Nathalie Castagnier. Vous l'avez évidemment lu en italien dans le texte.
Lu en italien, oui, dans le texte. Et je me permets simplement que maintenant, toutes ces œuvres, on peut les retrouver aux éditions du Tripode.
Qui veut réagir sur Charles Pépin, sur les vertus de la littérature, parfois, pour réparer nos erreurs?
Ouais, bah là, c'est dur quand même, parce que c'est réparation post-mortem. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très, très belle chronique, bravo.
Qui peut nous dire si les excuses nous permettent de réparer nos erreurs? Charles Pépin, c'est une vaste question qui mériterait une émission à part entière, mais est-ce que s'excuser, comme au tout début de l'émission avec l'extrait d'un poisson de Vivanda, ça suffit à surmonter ses erreurs?
Justement, si on se souvient de l'extrait, on voit bien qu'il s'excuse nerveusement pour s'en débarrasser, mais que le cœur n'y est pas. Et je crois qu'il y a un très bon conseil là-dedans, dans un livre très violent de Eve Ensler, qui s'appelle Pardon, où elle raconte qu'elle a été violée par son père, puis il l'a tapée quand elle s'est opposée au viol, puis il est mort sans lui demander pardon, et sans s'excuser, et elle imagine comment il aurait dû parler pour réussir à lui demander pardon et à s'excuser. Et je crois que ce qu'on oublie vraiment de dire, c'est que formuler des excuses, ça ne vaut que si on montre à l'autre qu'on a compris vraiment le mal qu'on a fait. Et comme le dit très bien Eve Ensler, qu'on arrive à se laisser traverser par le mal qu'on a fait à l'autre, au point que l'autre comprenne qu'on a compris. Et à ce moment-là, on peut dire « je m'excuse en conséquence ». S'il n'y a pas ça, c'est une déclaration qui est plutôt une provocation de plus, quoi.
Pour aller dans votre sens, Guylaine nous écrit « peut-on réparer ses erreurs ?» Oui, on peut les réparer en surface, en s'excusant, mais on ne répare pas les conséquences de ses erreurs. Vous êtes d'accord avec Guylaine ?
Pas nécessairement. Je pense que si on lit Evans Fleur et qu'on essaye de se laisser ainsi traverser par le mal qu'on a fait, peut-être qu'il peut y avoir une réparation. Et par ailleurs, dans tous les processus de justice restaurative ou de justice réparative, on voit bien que, non, c'est possible justement, je pense pas qu'on puisse être si négatif, c'est possible, mais il faut changer de façon de voir les choses et vraiment entrer en relation les uns avec les autres de manière beaucoup plus radicale.
Alexandre Lacroix, comment réparer ces erreurs en s'appuyant sur quelques philosophes que vous citez dans le Philomague d'Albert Camus, en passant par Rousseau, Montaigne, Hannah Arendt ou John Stuart Mill, un petit choix peut-être.
Oui, alors on était en train d'évoquer la question de l'excuse, du pardon, de la réparation. Ça, c'est une stratégie par rapport à l'erreur qui consiste à essayer de modifier quelque chose dans sa relation aux autres. J'ai fait une erreur, je vais demander pardon. Je ne serai délié de mon erreur, d'ailleurs, que quand l'autre m'aura accordé son pardon. Je peux aussi faire une promesse, celle, par exemple, de ne pas recommencer. Et là, on voit bien que ce que j'essaye de faire avec les autres, c'est de restaurer quelque chose comme l'estime mutuelle ou la confiance mutuelle, mais par un acte de discours, par un acte de parole. Alors, ça, c'est Hannah Arendt qui propose de mettre le pardon et la promesse au centre de notre vie morale, de notre vie active. Mais on voit bien la limite de la chose, c'est verbal. Pour des philosophes beaucoup plus concrets, comme les philosophes britanniques, comme les utilitaristes, comme John Stuart Mill par exemple, il faut aller dans le cœur de la réparation, c'est-à-dire essayer de mesurer les conséquences concrètes qu'ont eu l'erreur, et peut-être même des conséquences financières, et si on est en mesure de le faire, réparer d'un montant qui compense l'erreur commise. Vous voyez, on peut avoir une stratégie vis-à-vis des autres qui est assez matérialiste et une autre qui est complètement, on va dire, morale, philosophique, verbale. Et puis, il y a aussi une autre notion, il y a un autre courant de philosophes, et je vais être bref, qui consiste qu'on répare ses erreurs en travaillant davantage sur soi-même. Et travailler sur soi-même, parfois, c'est faire pénitence, c'est-à-dire se donner un temps pour intégrer son erreur. Vous citiez Camus, mais dans La Chute, on a ce personnage du juge qui se considère lui-même comme un juge pénitent, notamment parce qu'il a vu une jeune femme se jeter dans la Seine et qu'il n'est pas allé la sauver, il est en pénitence. Et puis, il y a la pratique de la confession, c'est-à-dire une autre chose que je peux faire par rapport à moi-même, c'est confesser mes erreurs publiquement.
Sylvie Chocron.
Alors moi, je voudrais donner un conseil pour par rapport à ces erreurs, comment gérer ces erreurs. Je voudrais dire que ce serait une erreur que de vouloir fuir l'erreur, de vouloir la nier, de vouloir l'oublier tout de suite, dès qu'on l'a faite. Parce que ce qui va nous permettre vraiment de ne plus faire d'erreur, c'est non seulement de la garder en mémoire, mais d'y penser régulièrement, d'activer ce souvenir pour nous permettre de nous adapter et de ne plus faire d'erreur.
Merci beaucoup Sylvie Chocron. Plongez dans votre cerveau, l'explorer, c'est l'apprivoiser, c'est publié aux presses de la Cité. Merci Alexandre Lacroix. Peut-on réparer ses erreurs? C'est la une du nouveau numéro de Philosophie Magazine. Merci Charles Pépin. Votre seule en scène adaptée de votre roman philosophique publié chez Alary Éditions reprend au théâtre du Montparnasse. Il se joue jusqu'au mois d'août et c'est une adaptation signée Olivier Ruidavé, où l'on apprend dans votre spectacle à trouver la joie même dans l'adversité.
Ouais, c'est vraiment un comédien exceptionnel. D'ailleurs, c'est lui qui est sur scène, hein, c'est pas moi, je précise. Et je dis merci parce que c'est mon texte, mais c'est un magnifique cadeau de le voir ainsi sublimement mis en scène.
C'est tous les jours ?
Tous les jours, ouais, au théâtre du Montparnasse.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.